Voici une traduction en français de la conférence enregistrée, numéro 56-10-C25, intitulée « L'éducation ». Il s'agit de la conférence numéro 3 de la série de conférences sur l'organisation donnée par Elron Hubbard en octobre 1956. Copyright 1956-1982, Elron Hubbard, tout droit mondiaux de reproduction réservé. Il y a une rumeur dans l'air comme quoi je suis censé vous parler de la façon d'éduquer les gens, ce soir. Quelqu'un me dit que c'est ça que j'ai déclaré au cours de la journée, mais j'étais audité sur le non-savoir et le procédé n'a jamais été aplani. Nous sommes revenus 5 vies en arrière et j'ai abandonné la partie. J'ai dit, on laisse tomber. Si je dois à nouveau non-savoir tout ça, je laisse tomber. Au diable toutes ces histoires. J'aimerais vous parler de l'instruction. De l'éducation. L'éducation est un sujet intéressant. C'est un sujet très intéressant du fait que l'éducation relève apparemment de notre domaine. Bon, vous vous considérez comme des auditeurs. Eh bien, les techniques d'auditing sont une méthode par laquelle vous amenez les gens à savoir. Réfléchissez bien à la question. L'une des choses les plus bizarres ici est que le dénominateur commun de toute existence est apparemment le fait d'apprendre. En Dianétique, notre dénominateur commun était survivre, et nous découvrons en scientologie, à notre grand embarras, que c'est inévitable. Nous devons donc trouver une autre excuse, et la meilleure que nous puissions trouver sans chercher trop loin ou nous creuser la cervelle outre mesure, c'est apprendre. Apprendre est apparemment un vaste domaine, et nous trouvons l'apprendre à presque tous les niveaux d'action et à presque tous les niveaux de l'existence. Maintenant, apprendre impliquerait l'action suivante. Le gars regarde le mur et apprend que c'est un mur. Comprenez ce que je veux dire. Donc, l'action d'identifier est le niveau le plus bas de l'action d'apprendre. Mais cela revient quand même à apprendre. Nous rencontrons Jean. Si nous sommes en bon état, nous apprenons que c'est Jean le regardant. Certains d'entre nous qui ne sommes pas en très bon état, regardons Jean et nous adressons à Père. Voyez maintenant comment ça marche. Voyez comment on pourrait faire entrer cela dans la catégorie apprendre. Maintenant, ne vous y trompez pas. En vérité, et ceci est entre nous scientologues, vivre ne consiste pas uniquement à apprendre. Loin de là, très loin de là. Ça consiste aussi à créer. Il y a d'autres facteurs que le facteur apprendre. Nous n'allons pas les aborder ici, nous allons uniquement parler du facteur apprendre, et nous allons montrer comment nous pourrions, avec quelques petits ajustements et quelques petits tours de passe-passe, faire du facteur apprendre le dénominateur commun de tout ce qui existe, ce qui ferait de l'éducation notre point fort. L'éducation. Le plus étrange, c'est qu'un scientologue est capable d'éduquer quelqu'un que personne n'a réussi à éduquer. Comment y arrive-t-il ? En l'auditant. L'une des choses principales que l'auditing améliore, c'est le QI. Ce qui a évidemment pour effet secondaire d'augmenter la vitesse à laquelle la personne apprend. Qu'est-ce que le QI ? Sinon, une aptitude relative à acquérir des connaissances. Donc nous ne faisons rien d'autre, en fait, au-dessous du niveau des solides et de l'effort, bien sûr, que bousculer la pensée dans tous les sens. Vous voyez, nous bousculons la pensée. Maintenant, bien sûr, les gens qui croient que tout n'est que pensée vont immédiatement accepter tout ce qui est connaissance sans être autre chose. Vous voyez, quelle que soit l'activité en question, ils accepteront toute connaissance telle qu'elle. Ils partent du principe suivant, s'ils apprennent un bout de tel ou tel sujet, ils ont compris le sujet. Ils sont passés maîtres dans cet art. Ils inventent tant de choses à apprendre qu'il est impossible de rendre quelqu'un clair avec des procédés d'éducation uniquement. Ils parsèment le chemin d'embûches. Un gars a un corps. Il est incapable de le regarder et il regarde donc le corps de quelqu'un d'autre. Il est incapable de regarder celui-là, il regarde donc un cadavre sur la table de dissection. Tandis qu'il le découpe, il découvre une quantité énorme de fragments. Il examine tous ces fragments et se rend compte qu'il est impossible de mettre de l'ordre dans ce fatras sanglant, dans cette confusion, à moins d'inventer un nom pour chaque fragment qui lui tombe sous la main. Il écrit donc un ouvrage savant sur le sujet, mais en fait, il n'accomplit rien en faisant cela. Il ne dissèque même pas le cadavre comme il faut. Par contre, il étiquette les différentes parties du corps comme un chef. Ça, il le fait comme un chef. Et il passe le reste de sa vie à revoir tous les noms qu'il a inventés. Voilà à peu près l'étude directe, la plus approfondie, à laquelle se soit livrée la profession médicale pour ce qui est du corps. Elle est même allée chercher tous ces noms dans une langue morte que plus personne ne parle, voyez. Un psychologue qui essaie d'habiter un cerveau, qui pour lui n'est qu'une série d'étiquettes, n'aura pas beaucoup de réalité sur la contiguïté des cellules cervicales. Il a tant subdivisé le cerveau qu'il vit au milieu de tout un tas d'étiquettes. Maintenant, apprendre peut très facilement devenir apprendre une complexité inventée de toutes pièces à laquelle personne n'a jamais eu affaire. Et c'est ainsi qu'apprendre peut, dans une certaine mesure, tomber en disgrâce. On peut remédier à l'obsession de vouloir tout apprendre au moyen d'un procédé intéressant. C'est le procédé soif de savoir. Vous dites, mets la soif de savoir dans les murs. Les gens en ont l'estomac retourné. Cela provoque toutes sortes de choses curieuses. Le domaine de l'apprendre, donc, touche le fond quand on se met à apprendre de gros ensembles de connaissances inventées de toutes pièces et cataloguées n'importe comment et exprimées dans une autre langue. La botanique est l'un de ces sujets catalogues. Je vais vous dire tout le pensé dont on a fait preuve en botanique. Ça va beaucoup vous intéresser. C'est Francis Bacon le coupable. Il a écrit un petit essai dans lequel il expose une soi-disant science appelée botanique. Il a pensé que c'était un bon moyen d'établir une science. Il a simplement pris quelque chose qui n'avait pas encore été institué et il en a rapidement parlé pendant un paragraphe ou deux. Voilà comment vous créez une science concernant les fleurs et les plantes. Et il a balancé tout ça dans ce petit paragraphe et depuis le XVIe siècle, vous avez donc cette science appelée botanique. Eh bien, de ces quelques phrases, il n'est jamais vraiment ressorti une activité technique. Par contre, il en est ressorti une sacrée classification. Maintenant, je vous parie que vous ne saviez pas que l'artichaut est un cousin des chrysanthèmes. Eh bien, moi non plus. Mais je suis sûr qu'il se trouvera un botaniste pour établir ce genre d'association. Bon. Très bien. Maintenant, prenons le fait d'apprendre des choses concernant le mental et l'esprit. J'ai dit qu'un psychologue vivait au milieu de tout un tas d'étiquettes et non pas dans un cerveau. Eh bien, son aptitude à contacter ou observer son propre cerveau a été si basse qu'il n'a pas vu, avec cette classification des parties du cerveau, que le monde de la psychologie est resté complètement bloqué dans cette histoire de cerveau. Eh bien, examinons attentivement pourquoi ce fait lui a échappé. Il était incapable de regarder le cerveau. Alors il a regardé un substitut. Maintenant, examinons les thérapeutiques de base, les vieilles thérapeutiques. Nous trouvons la psychanalyse. Et le psychanalyste s'intéresse tant à la signification de l'expérience qu'il ne regarde jamais l'expérience. Donc, l'éducation ou l'étude a été dans le passé un système qui consistait à éviter l'observation. Et quand on évite d'observer, on se retrouve tôt ou tard dans le pétrin. Et en effet, l'éducation est en plein dans le pétrin. Nous envoyons quelqu'un à l'école pendant, je ne sais pas, moi je pense qu'il lui faut 60 ans maintenant pour sortir de l'université, et on lui fait suivre une route où il évite le savoir. Comprenez, il suit un système qui lui permet d'éviter de savoir quelque chose. Comment fait-il ? En étudiant. Maintenant, il y a des significations et des associations fondamentales, des mock-ups et des sols et des murs et des machines et des rouages et des jardins botaniques. Il y a toutes ces choses. Et quand vous essayez d'enseigner quelque chose à quelqu'un, il va normalement, chose intéressante, éviter le sujet en apprenant toutes les connaissances inventées. Vous avez cette grande machine, cette très grande machine avec des rouages en chrome et des leviers plaqués or, voyez ? Une très très belle machine, machine gigantesque. Deux hommes arrivent et la regardent. L'un d'eux dit « C'est quoi ?» Et l'autre dit « C'est une glourbonneuse. » « Non, sans blague, je savais pas. » Et ils s'en vont. Comme il est facile d'assouvir l'appétit de savoir d'une personne en lui donnant un nom pour quelque chose. C'est quelque chose qui mérite réflexion. Quelqu'un vient vous voir et vous demande « Comment se fait-il qu'il y a des gens qui se jettent d'un pont après un divorce » Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils divorcent et puis veulent se suicider. Pourquoi ça ? Puis vous commencez à leur expliquer le phénomène. Regardez, ce que cette personne a fait au partenaire conjugal lui revient comme un motivateur. La personne qui est dans tous ses états a dû faire quelque chose. Donc vous expliquez tout ça, et peut-être arriverez-vous très bien à vous faire comprendre. Peut-être. Vous voyez, vous lui donneriez ici l'anatomie véritable des difficultés conjugales. Quelqu'un, après avoir divorcé, veut se tuer. Eh bien, il a dû faire quelque chose pour hériter d'un tel motivateur. Et nous expliquerions cela à quelqu'un. Nous lui fournirions des données. Pourquoi est-ce que ce sont des données ? Parce qu'on peut s'en servir dans le jeu de la vie. Mais maintenant, évitons purement et simplement les responsabilités qui nous incombent à nous autres scientologues, ou bien mettons-les de côté en disant « Ah !» Et la personne dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Eh bien, cette personne souffre de pseudomania. Je veux dire, c'est très grave. C'est une maladie. Une maladie qui survient souvent après un divorce. La pseudomania marititus. Et vous seriez fasciné de voir l'effet de cette donnée qui ne veut rien dire. La personne va tourner les talons et s'en aller visiblement satisfaite. Maintenant, elle sait. Qu'est-ce qu'elle sait ? Elle sait quelque chose dont elle pourra se rappeler. C'est tout ce qu'elle sait. Très bien. Examinons cela de plus près, et nous découvrons que cette personne veut éviter la situation. Elle veut éviter la situation et vous lui avez fourni une excuse. Vous lui avez donné un nom compliqué, ce qui lui a permis de ne pas approfondir la question. Ça lui a permis d'éviter le sujet une fois pour toutes. Elle n'a pas besoin d'en savoir plus. Oui. Ou encore, vous lui avez donné un morceau de votre manteau d'expert. C'est un expert, une autorité qui lui a dit ça, donc maintenant, elle est une autorité. Et ce gars va voir son confrère mécanicien et lui dit « Tu connais Pierrot ?»« Oui, je connais Pierrot. Pourquoi ?»« Eh bien, il est dans un sale état. » « Qu'est-ce qu'il a ?» Eh bien, Pierrot souffre d'une maladie horrible. Et c'est la fin de cette donnée. Très bien. Donc, si c'est là la méthode prédominante de transmission de la connaissance, c'est que les gens doivent, dans une très large mesure, éviter les véritables objets, actions et beingness de l'existence. Ça ne peut pas être autrement. Ils doivent, d'une façon ou d'une autre, être coincés dans un mécanisme par lequel ils évitent. Ils doivent emprunter une bifurcation alors qu'ils pourraient aller tout droit. Un gars veut savoir comment on fait pour construire une petite digue en béton. Vous lui apprenez à faire du béton, vous lui apprenez à faire une forme, vous lui expliquez qu'à telle et telle profondeur, la pression de l'eau varie et qu'il faut un mur de soutènement de chaque côté. C'est un sujet très complexe. Mais vous pourriez probablement lui apprendre tout ça en une soirée. Mais ce n'est pas ça qu'on fait dans cette société. Dans cette société, on envoie le gars 4 ans à l'université, et quand il en sort, il ne sait même pas ce que c'est une digue. Et il s'en fiche pas mal. Donc l'éducation, ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être, par exemple, la science qui consiste à éviter. Comment éviter ? Nous pourrions créer cette science, et ce serait une science merveilleuse, ce serait une science parfaitement acceptable, et nous la concevrions de telle façon qu'il serait impossible aux gens d'apprendre quoi que ce soit, où que ce soit, de quelque manière que ce soit. Nous leur enseignerions un système où s'ils voulaient regarder un mur, il leur faudrait consulter un livre. Et après avoir consulté le livre, il leur faudrait se servir d'une petite règle à coulisses, phonétique, sur laquelle ils pourraient regarder le nom, voyez ? Une règle qui leur donnerait une combinaison de syllabes. Et voilà. Vous seriez surpris, mais un livre sur le sujet écrit dans un style à la fois sobre et pompeux, aurait probablement beaucoup de succès. Vous pourriez l'appeler « Apprendre à étudier », une science, ou quelque chose comme ça. Et vous seriez paré. Et dans ce livre, vous alimenteriez ce mécanisme de fuite des gens. Vous leur permettriez d'éviter. Pas vrai ? Eh bien, nos systèmes d'éducation à nous sont moins indulgents. Ils sont beaucoup moins cléments. Parce que nous partons du principe très sain, selon lequel savoir n'a jamais tué personne. Mais eux s'appuient sur la donnée, et c'est de l'association, ils s'appuient sur une donnée, et non sur la réalité. Donc ils s'appuient sur la donnée selon laquelle la moindre étude va vous tuer net. Qu'apprendre, c'est dangereux. Il y a même un vieux proverbe qui dit « Apprendre un peu est dangereux ». Comme ils aimeraient pouvoir dire que vous vouliez apprendre beaucoup ou peu de choses, apprendre vous tuera. C'est cette théorie de la fuite que vous trouvez dans l'éducation. Eh bien, nous ne souscrivons pas à cette théorie. Nous n'y souscrivons absolument pas parce que nous savons, et c'est un fait, qu'une personne, pas un corps, peut en fait se lier ou s'associer à n'importe quoi avec impunité. Et les seules choses qui lui créent des ennuis, ce sont celles auxquelles elle n'ose pas s'associer. Ce sont les choses qu'elle n'a pas envie de connaître, qui lui posent des problèmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire « apprendre » pour nous ? Ça veut simplement dire « communiquer ». Ça ne veut pas dire « substituer une donnée à la réalité ». C'est d'une simplicité enfantine. C'est vraiment tout bête. Vous voulez apprendre quelque chose sur une chose ? Eh bien, communiquez avec elle. Maintenant, l'une des façons de communiquer avec elle, c'est d'en parler. Maintenant, supposons qu'il s'agit simplement d'une donnée. Supposons qu'il ne s'agit pas d'un objet solide, mais qu'il s'agit simplement du postulat d'un tétan. La seule façon de le faire disparaître, c'est d'en parler. Et dans de nombreux cas, d'y penser. Maintenant, quand une personne en arrive au point où elle n'est plus capable d'y penser, elle est obligée d'en parler. Mais la plupart des gens font les deux. Ils y pensent et ils en parlent. Et le postulat disparaît. Les données, ce sont les postulats ou les attributions de valeur des tétans. Rien d'autre. Maintenant, quand ils ont désigné une valeur à laquelle ils ont plus ou moins tous souscrit, eh bien, ils ont un fait. Comprenez ? Maintenant, est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me dire comment une simple association avec des consensus comme cela, ou comment une simple communication avec des consensus comme cela, pourrait tuer quelqu'un? C'est évidemment impossible. Il se trouve que c'est comme ça que les murs sont arrivés ici. C'est un postulat bien emballé qui dit « Je suis là, on s'est mis d'accord sur mon existence et on m'a ratifié lors du traité d'Ugveldt à 18 000 au sud du 9e nuage. » Et ça a la force d'une loi. Donc, si on part du principe que c'est si difficile de s'associer aux accords d'autrui, alors, bien sûr, ce sera très difficile. Parce que cette difficulté énorme n'est rien d'autre qu'un postulat parmi tant d'autres. Donc, prenons la base de l'éducation scientologique, à savoir que ça ne nuira pas à un tétan de communiquer avec quelque chose. Et pour l'éduquer, tout ce que nous avons à faire, c'est lui enseigner ce fait. Il doit connaître ce fait. Le tétan qui sait subjectivement, qui sait par expérience, ça demandera peut-être un peu de processing, que cela ne le tuera pas de savoir quelque chose, eh bien ce sera un tétan drôlement intelligent. S'il apprend ça, il aura appris ce que c'est apprendre. C'est très curieux, mais une fois qu'on sait ça, on a un mal énorme à rendre les choses hyper compliquées. Une personne peut apprendre quelque chose sur une chose avec laquelle elle communique. Et ça ne lui nuira pas si elle communique avec. Par contre, elle en verra de toutes les couleurs, comprenez ? C'est là où le bât blesse. Quand vous poussez un corps sur une tronçonneuse, vous avez des morceaux de corps qui partent dans tous les sens, ce qui, nous sommes tous mis d'accord là-dessus, est douloureux. Mais ce n'est pas du tout la même chose, qu'un tétan en train de communiquer avec une tronçonneuse. Si vous extériorisez quelqu'un, et que vous le mettez dans une tronçonneuse, il rigole. Maintenant, le plus drôle, si le corps ne fonctionnait pas selon cet accord, comme quoi ses propres expériences peuvent le détruire, un corps est d'accord dès le départ pour dire qu'il sera détruit par ses expériences, voyez-vous, eh bien, vous pourriez le pousser sur une tronçonneuse, et lorsque vous l'enlèveriez, les parties qui s'en sont détachées se remettraient d'elles-mêmes. Et la chose ne serait pas non plus douloureuse s'il n'y avait pas ce facteur « expérience » rattaché au corps. Mais si vous ajoutez le facteur « expérience » au corps, alors vous conduisez les gens à la douleur et à la destruction. On pourrait définir le vieux système d'éducation en usage de la façon suivante. Un système horrible. Placer des données dans le rappel d'autrui. Donc le vieux système d'éducation accepte l'hypnotisme, ne tient pas vraiment compte de l'utilité des données, n'analyse pas le faire et évite complètement l'avoir. Ce qui empêche évidemment les gens d'être quoi que ce soit. Mais lorsque vous placez des données dans le rappel d'une personne, celle-ci va s'en remettre à son expérience et non à ses perceptions. Ce sont deux choses complètement différentes. Se rappeler une expérience n'a rien à voir avec le fait de percevoir et d'estimer la situation. Maintenant, je ne suis pas en train de descendre en flamme le vieux système d'éducation, non. Je suis juste en train de l'enterrer. La scientologie agit d'une façon complètement différente. Bon, notre conception de l'éducation n'a pas encore été exposée dans tous les détails, avec précision et exactitude, mais la voici en quelques mots. Vous proposez à quelqu'un des données pour qu'il les assimile et s'en serve. Et vous facilitez leur assimilation, et tout cela afin que la personne puisse mieux contrôler une vie meilleure. Ce serait une définition de l'éducation beaucoup plus longue, mais elle est beaucoup plus proche de la vérité. Si vous voulez vous lancer dans l'éducation, alors il faut que ce soit un jeu avec un but. Il lui faut une raison d'être. Il faut inclure le but dans votre définition. Sinon, vous n'irez nulle part. Donc, quand nous proposons une donnée à quelqu'un, cette donnée doit faire partie de son autodétermination et non de ses rappels. Vous voyez la différence. Cette donnée, la personne doit la posséder de façon autodéterminée. Sinon, elle ne pourra pas s'en servir à fond dans la vie. Donc, nous fournissons des données à une personne d'une façon qui lui permette de les contrôler, puis de s'en servir, d'une façon qui lui permette d'ordonner et d'évaluer ces données et de les appliquer à des beingness et à des actions spécifiques de la vie. Et nous ne laissons jamais une donnée flotter toute seule dans les airs. Maintenant, ce système d'éducation qui consiste à éviter, système d'éducation dont je vous ai parlé au début, eh bien, vous le trouvez chez tout préclair que vous avez audité. Il est assis là, dans la valance de sa mère, il a le cœur dans un sale état, et vous dites, tu connais quelqu'un qui souffre du cœur? Il dit, ah oui, maman. Vous dites, très bien, tu peux te rappeler une fois où maman souffrait du cœur? Ah oui, plein de fois. Vous dites, et ton cœur à toi, tu penses qu'il y a un rapport? Oui, à mon avis, il y a un sacré rapport. Vous voyez, aucune donnée ne sortirait de tout cela. La chose est profondément enfouie dans le noir le plus total. J'ai eu affaire à des gens qui m'ont dit exactement ce qui n'allait pas chez eux. Ils avaient étudié la question à fond. Mais ce n'était pas parti. La chose qui n'allait pas chez eux était toujours là. Ils n'avaient pas réussi à s'en débarrasser, ne serait-ce que d'une miette. Eh bien, comment ça se fait-il? Il s'agissait probablement de la seule chose qui n'allait pas, qui leur restait. Il s'agissait probablement de la seule leçon qu'ils avaient jamais apprise. Maintenant, toute chose qui cloche chez une personne n'est rien d'autre qu'une leçon qu'elle a apprise. Mais les gens le savent. C'est pourquoi ils évitent les leçons. Mais la première chose qui a cloché chez eux, ça a été d'avoir évité une leçon. Ce qui leur a ensuite permis d'éviter d'autres leçons. Et ils devenaient alors victimes de chaque leçon qu'ils évitaient. Et voilà. Combien de méthodes pourriez-vous élaborer pour enseigner à quelqu'un tout un tas de choses sur l'éducation? Combien de méthodes pourriez-vous employer? Eh bien, combien connaissez-vous de techniques d'auditing? Il y en a pas mal. Mais cette activité d'éducation à laquelle vous vous livrez repose, bien sûr, dans une large mesure sur la communication. Donc, on doit démontrer l'existence de la communication avant de pouvoir se lancer dans une éducation qui soit non pas un engramme, mais une véritable éducation au sens scientologique du mot. Vous pouvez toujours donner un coup sur la tête à quelqu'un et dire « ça lui apprendra ». Là, il aura appris, pour le restant de sa vie. Il s'en souviendra tous les jours. Et il aura appris quoi ? Dieu seul le sait. Vraiment une méthode hasardeuse. Supposons que la phrase prononcée pendant qu'on lui tape sur la tête soit « tu ne vaux pas mieux qu'une motte de terre ». Nous avons eu affaire une fois à quelqu'un, il travaillait à la Northwest Airlines, je crois, qui avait cette phrase dans le banc. Et tout ce qu'il avait entrepris à terre s'était soldé par un échec. Il était devenu pilote. Il détestait le métier de pilote, mais il ne valait pas mieux qu'une motte de terre. Quelqu'un d'autre, avec la même phrase, va devenir prêtre. L'homme insiste pour exercer son pouvoir de choix et il insiste pour entreprendre quelque chose dans n'importe quel domaine. Mais il faut que son pouvoir de choix soit bien en vue et il doit parfaitement maîtriser ce qu'il entreprend et savoir ce qu'il maîtrise. C'est très important. Si vous dressez des lions, j'ai entendu dire que lorsque vous dressez des lions, vous avez vraiment intérêt à savoir que c'est un lion que vous dressez. J'ai entendu dire ça. Il est arrivé de temps en temps que certaines âmes prudentes amènent cette question sur le tapis. Lorsque vous avez affaire à un être humain, Dieu sait à quoi vous avez affaire. Peut-être avez-vous affaire à un lion. Regardez les petits enfants. Ils courent dans la rue et se tirent dessus avec des pistolets à amorce. Ils changent toutes les minutes, impossible de dire qui ils sont. Qui sont-ils? Je ne sais pas, moi. Ils sont n'importe qui. Davy Crockett, ou Buffalo Bill, ou Nathan Hale. On l'a pendu. Ou quelqu'un d'autre. Ils sont quelqu'un. Ils sont quelqu'un qu'ils ne sont pas. C'est seulement quand quelqu'un devient quelqu'un qu'il est vraiment, qu'il commence à s'inquiéter. Très bien. Les systèmes d'éducation doivent donc uniquement tenir compte des façons inoffensives de communiquer et des formules qui régissent la communication. Et ils doivent transmettre les données d'une façon logique, de façon à ce que la personne puisse s'en servir dans la vie. Cependant, la communication joue un rôle primordial. N'est-ce pas ? La communication. Et la formule de la communication dans son intégralité. Chaque fois qu'on a évité la communication, quand vous étiez gosse, il y a eu quelque chose que vous n'avez pas appris. Vous n'avez pas appris quelque chose. À coup sûr. On ne s'était pas donné la peine d'obtenir votre attention, on ne s'était pas donné la peine de dire à quoi ça s'appliquait. Et vous êtes mis à patauger. Et aujourd'hui encore, vous pensez probablement que 2 plus 8, ça fait 12. Évidemment, c'est votre postulat. Si vous étiez très fort, 2 plus 8 ferait vraiment 12. Mais là n'est pas la question. Maintenant, chose bizarre, vous trouvez une description presque complète de l'éducation, ses propres définitions mises à part, dans les vieilles logiques de la Dianétique. Et ces logiques constituent l'anatomie de l'éducation. On pourrait les appeler les axiomes de l'éducation. Elles n'ont jamais existé dans le domaine de l'éducation. On n'avait pas été loin de connaître quelques-unes de ces logiques à l'époque où l'on enseignait un sujet appelé la logique et l'argumentation. Un sujet extraordinaire. J'ai eu un livre sur le sujet une fois. Fabuleux, une simplicité sans pareil. Comment venir à bout d'un adversaire au cours d'un débat? Si vous donnez cette liste extraordinaire, je veux dire, ils ont vraiment abordé le sujet. Ils étaient sérieux quand ils parlaient de venir à bout d'un adversaire pendant un débat. Il vous donnait une anatomie complète de la façon dont vous veniez à bout d'un adversaire au cours d'un débat. Tout un tas de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec le débat, et le livre le précisait bien. Il disait comment distraire l'attention de la personne, les choses les plus terre-à-terre qui soient. Par exemple, vous faisiez en sorte qu'on l'appelle de temps en temps depuis les tribunes. Ne plaisante pas, un livre fabuleux, très pratique. Je regrette de ne pas l'avoir étudié. Quoi qu'il en soit, il y avait dans ce livre l'une des données les plus merveilleuses qui soient. N'attaquez jamais les données proprement dites de votre adversaire au cours d'un débat. Attaquez-vous toujours aux sources des données. Vous rendez compte? Vicieux, non? Le gars dit, on a consommé 291 tonnes d'uranium l'année dernière. Il est en train de démontrer la valeur de l'uranium et ce qu'on a dépensé pour l'uranium. Vous ne dites pas, oh, ou ça alors? Vous devez toujours être en désaccord avec lui. Un débat est une discussion. C'est expliqué très clairement dans le livre. Il soit dit en passant, date de 1866 ou 67. Vous ne devez jamais être d'accord avec lui. Vous demandez, qui a dit ça? D'où tirez-vous cette information? Et il répond, oh, de Box et Snogelberg, c'est dans leur rapport sur les extractions minières qui a été publié dans le magazine trimestriel du mineur. Et vous dites, le magazine trimestriel du mineur est publié par quelle organisation? Il dit, eh bien par l'Union des mineurs, évidemment. Vous dites, ah. Il aurait tout aussi bien pu s'agir du Comité national des Républicains. Vous auriez quand même dit, ah, vous voyez. Je crois qu'ils ont éliminé tous ceux qui connaissaient ce sujet. Je crois qu'on les a tous éliminés, ce qui fait que ce sujet n'existe plus. C'était un livre merveilleux. J'en ai même plus d'exemplaires. Mais toujours est-il que si nous voulons transmettre une donnée complètement, de façon à ce qu'elle reste fixée pour toujours, et qu'elle ne soit pas sous le contrôle des gens, il nous faut perdre la source ou mentir à son sujet. Nous devons faire disparaître la source entièrement. Nous devons attribuer la donnée à une autre source. Puis nous devons légèrement modifier cette donnée. Et ensuite, nous devons la faire transmettre par une autorité en la matière. Et si quelqu'un dit que ce n'est pas une autorité en la matière, ou bien que cette autorité n'a rien à voir avec la donnée, eh bien, pointons l'artillerie lourde sur lui. Faisons-le revenir dans la classe d'avant, envoyons une lettre à ses parents. Ça paraît fou, non? Simplement parce qu'il a dit que Snorgel et Fugelbaum ont fait telle et telle chose, on lui inflige toutes ces sanctions. Si tu ne crois pas ce qu'on te dit, ton compte est bon. Eh bien voilà le vieux système d'éducation. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette donnée? Elle ne vaut rien. Comme ça, Snorgel et Fugelbaum ont dit ça. Et alors? Einstein, tenez, je vais vous donner un exemple de l'inverse. On dit qu'Einstein a joué un grand rôle dans l'invention de la bombe A. On l'a inventé en s'appuyant sur son autorité, quelque chose comme ça. On se l'est approprié en s'appuyant sur son autorité. Un peu de temps s'écoule, et nous constatons qu'à aucun moment, Einstein ne peut dire « la bombe A n'explosera pas ce soir ». Ne peut rien dire, rien faire pour l'éviter. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autorité? Quelle différence qu'Einstein ouvre la bouche ou non? En fait, ça n'a absolument rien à voir avec le comportement de la bombe. La bombe explose ou n'explose pas. Un point, c'est tout. Simple, non? Et c'est surtout parce qu'Einstein ne peut rien contre cette énorme quantité de gens qui ont tous été d'accord pour dire, sur la piste de temps, que les bombes atomiques, ça explosait. Il a la majorité contre lui. Et vous vous retrouvez alors dans cette horrible position, dans laquelle j'ai moi aussi été poussé, où tout ce que vous pouvez faire, c'est classer les décisions majoritaires par catégorie. Mais la combinaison autorité-éducation risque de bourrer les gens d'idées fixes. Si ce qu'on enseigne est vrai, alors les gens le verront d'eux-mêmes, étant donné qu'on ne peut pas enseigner à fond, à quelqu'un, quelque chose qu'il ne connaît pas déjà, ne serait-ce que vaguement. Par exemple, il est impossible de vous enseigner une donnée utile, dont vous pourrez vous servir, concernant le mental humain, si au préalable vous n'êtes pas déjà d'accord avec cette donnée. On peut vous apprendre une invention concernant le mental humain, mais à une condition, qu'on vous enseigne également qu'il s'agit d'une invention. Sinon, il faudrait vous l'enseigner par hypnose. Et tout ce qu'on aurait fait alors, c'est vous fournir une conviction de plus, que vous ne pourriez pas utiliser ou modifier. Vous voyez, il faudrait employer l'hypnose. Et qu'est-ce que ça vous apporterait? Eh bien, ça vous apporterait une donnée de plus. Et si l'on parvenait à hypnotiser, suffisamment de gens et à leur faire croire que tous les cerveaux comportent des bobines d'induction, eh bien j'imagine que la ligne génétique se mettrait à créer des bobines d'induction. Mais elle ne l'a pas encore fait. Rappelez-vous bien de ça, elle ne l'a pas encore fait. Autrement dit, les choses les plus faciles à apprendre pour nous, ce sont celles auxquelles nous avons déjà souscrit. C'est la raison pour laquelle tant de gens se font recaler dans les matières scientifiques. La science est l'invention la plus diabolique qui soit. Mais c'est une invention à laquelle on a déjà plus ou moins uniformément souscrit. Et en plus, elle repose sur une autre série d'inventions et de postulats diaboliques auxquels on a également souscrit. Et je peux vous assurer que cette série d'accords diaboliques n'avait pas besoin d'autres inventions. Pourtant, rien que pour pouvoir enseigner quelque chose, on est allé inventer toutes ces autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, voici une méthode sûre pour déterminer si oui ou non un professeur connaît son sujet. Est-ce qu'il insiste pour que tout le monde assimile les données sans discuter? S'il insiste pour qu'on assimile un tas de données sans discuter ni poser de questions, eh bien nous savons que ce bonhomme ne connaît pas son sujet. Il a peur. Il pense plus ou moins qu'il ne faut pas permettre à qui que ce soit d'examiner ses données. Et donc il fait autre chose. Maintenant, il est absolument nécessaire que le professeur préserve le pouvoir de choix de l'étudiant par rapport aux données qu'il lui enseigne. Si une donnée ne correspond pas à ce que sait l'étudiant et qu'elle ne s'applique pas à l'environnement de l'étudiant, il doit permettre à ce dernier de l'examiner et de dire ce qu'il en est. Et il doit agir en conséquence. Ce n'est que de cette façon que vous aurez des données utiles ou utilisées. Si le domaine de l'ingénierie essuie des échecs, c'est principalement parce que tous ses fondateurs sont morts. On les retrouve très loin en arrière, sur la piste de temps. Un gars est venu me voir récemment. Il m'a plutôt surpris. J'étais un peu submergé par cette rencontre. Il est venu me voir à Londres, et le rendez-vous avait été fixé par câble, 2 ou 3 jours avant. La première rumeur de son arrivée, je l'avais entendue 2 semaines avant. Et puis le rendez-vous exact avait été fixé 2 ou 3 jours avant la rencontre. Il voulait passer me voir à mon bureau londonien, il voulait me parler. Il ne m'avait pas dit si c'était urgent. Je me demandais ce qu'il pouvait bien me vouloir, parce que ce gars était plutôt célèbre. C'est probablement le plus grand spécialiste du moment dans le domaine de la recherche aérodynamique. Il travaillait pour l'armée de l'air américaine. Et je me demandais, pourquoi diable ce gars veut-il me voir? Il n'a rien fait. Et il a atterri dans mon bureau, il s'est assis, il a pris l'une de mes coules, accepté un Coca-Cola et refusé un verre de vodka, en disant que c'était contraire à ses convictions. Et nous avons bavardé pendant exactement 1 demi-heure. Nous avons parlé de certaines découvertes récentes. J'ai acquiescé, j'ai dit que je pensais que c'était de très bons développements. J'ai compris un peu en quoi il consistait. J'ai eu une vague idée de ce qu'il voulait dire, j'ai pataugé un peu. Et puis j'ai dit très bien, excellent. Il m'a donné à entendre qu'il cherchait quelqu'un de plus jeune que lui, vu qu'il avait 71 ans, il avait travaillé avec les frères Wright à l'époque, pour le remplacer un jour. Et il a sous-entendu, ou très vaguement, qu'un jour il aimerait que j'audite quelqu'un pour lui. Mais de toute évidence, ce n'était pas l'objet de sa visite. Eh bien, il a regardé sa montre, il est sorti, il est monté dans la voiture de l'ambassade américaine, puis dans l'avion de l'armée de l'air, américaine, pour se rendre à sa destination, qui était Bruxelles. Une grande conférence à Bruxelles. Et puis il est rentré chez lui. C'est tout ce qu'il voulait à Londres. Et je suis resté là à me gratter la tête, je n'arrivais pas à me figurer ce que c'était que toute cette histoire. Pas la moindre idée. Et puis finalement, après pas mal de temps, j'ai trouvé. Le gars se sentait seul. C'est tout. Je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Je lui ai dit de repasser me voir, il m'a dit qu'il le ferait. Il n'est pas encore rentré chez lui. Mais voilà une histoire très intéressante. D'après sa conversation, il était facile de deviner qu'il était le seul dans son domaine à exercer un pouvoir de choix par rapport aux données et aux théories. Tous les autres à travailler dans son domaine, ses propres associés et ses assistants, particulièrement ses assistants, restaient accrochés à des données, à des idées fixes, auquel tout le monde avait souscrit dans le domaine de l'aérodynamique. Des données qui n'étaient pas forcément vraies du tout. Je n'arrivais pas à imaginer, et lui non plus, comment on pouvait appliquer le calcul infinitésimal aux ailes d'un avion et réussir à construire des ailes à partir de l'une de ses feuilles de calcul mathématique. Il m'a dit qu'il demandait toujours si on s'était servi du modèle d'essai pour construire les modèles de série, afin que les mesures soient exactes, et qu'il n'était pas tranquille tant que ça n'avait pas été fait. Mais cet homme était un réaliste, un sacré réaliste. Si vous ne pouviez pas réfléchir à la donnée et l'examiner, eh bien vous ne pouviez pas la connaître, donc elle ne servait à rien. Voilà comment il travaillait. J'ai bien peur que dans le domaine de la connaissance, scientologie y comprise, rien n'est sacré pour moi. En fait, il faudrait vraiment discuter longtemps avec moi et me harceler très très longtemps pour me convaincre qu'une donnée est immuable et qu'il ne faut plus y toucher. Je crains qu'il ne soit très difficile de me convaincre. Bien sûr, il y aurait des façons d'y parvenir. Vous pourriez tous vous kidnapper entre vous et vous garder en otage jusqu'à ce que je finisse par admettre que la Lune n'est qu'un fromage. Là, je dirais probablement que la Lune est un fromage. Parce que je peux aussi être flexible si la situation le requiert. J'essaye pas de me poser là comme un modèle d'intégrité inviolable, aux dépens de telle ou telle chose. Oui. À mon avis, la pire chose qui pourrait arriver à quelqu'un, à part mourir, ce serait rester complètement bloqué sur toute la piste de temps avec toutes les données qui ont jamais été inventées et auxquelles on a souscrit. C'est la seule chose que je connaisse qui soit pire que la mort. Mais il existe un autre sort qui est presque aussi sinistre. C'est de fuir chaque donnée sous prétexte qu'on y a souscrit. Vous devez conserver un esprit souple, quelles que soient les circonstances. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé d'accepter des données parce qu'on les dit fixes et immuables, et vous n'êtes pas non plus obligé de fuir toute donnée qui ressemble de près ou de loin à une donnée fixe et immuable. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter et vous n'êtes pas obligé de la rejeter. Vous devriez bâiller de temps en temps. La chose n'est pas si importante que ça. Donc, nous avons découvert en scientologie un grand nombre de données qui, apparemment, sont les dénominateurs communs des accords de la piste totale. Des accords, évidemment, auxquels sont parvenus la majorité des gens qui les perçoivent en ce moment. Et des gens se sont détachés de leur participation à leur création. Et beaucoup d'entre eux les ont fuis et évités, parce que s'ils repensaient aux choses auxquelles ils ont pensé jadis, de toute évidence, ça les tuerait. Et en inspectant tout cela, nous parvenons à certaines méthodes et à certains accords bien déterminés, au moyen desquels nous pouvons atteindre ces créations et les renverser d'une façon ou d'une autre, ou les réarranger en mieux, ou encore faire quelque chose avec. Autrement dit, nous sommes en mesure de modifier les conditions fixes et non fixes de l'existence. Maintenant, parfois, nous y arrivons bien, et parfois, nous n'y arrivons pas bien. Mais une chose demeure dans tous les cas. Moins une chose était fixée au départ, plus il nous est facile de la défixer. Et plus une chose était fixée au départ, plus il nous est facile de la fixer. Ça, nous y arrivons toujours. Nous pouvons toujours défixer quelque chose qui était très très défixé. Vous savez, un gars se promène dans la rue et soudain la pensée lui vient que son comportement n'est peut-être pas totalement masculin. Peut-être est-il légèrement efféminé. Autrement dit, la donnée « peut-être que je suis une fille » s'est plantée là. Bien, voyez-vous, c'est une donnée vague, peut-être que c'est un jeu qu'il a avec lui-même ou quelque chose comme ça. Nous arrivons, nous lui donnons une tape sur l'épaule, et il nous dit ce qu'il tracasse. Nous n'avons même pas besoin de lui dire « tu n'es pas une fille ». Je veux dire, il nous dit simplement ce qu'il tracasse, et la chose se dissipe. Oui, ça va aussi vite que ça. Disons maintenant qu'il se promène dans la rue avec une autre donnée. Il se promène dans la rue avec une donnée qui dit qu'il est un homme. Voilà une donnée plutôt fixée, pas vrai? Il porte des vêtements d'homme, il a une tête d'homme, il a une coiffure d'homme, et il est absolument convaincu qu'il est un homme. Eh bien, nous aurions un peu plus de mal à défixer cette donnée-là. Bien sûr, ils y arrivent facilement à Hollywood, mais ce n'est pas le chemin que nous empruntons. Cependant, est-ce que vous voyez que la fixité relative de la donnée détermine si vous serez capable de la défixer? Maintenant, nous pouvons facilement lui mettre dans la tête qu'il est un homme, pas vrai? Il le pensait déjà. Et nous pourrions réussir, dans une certaine mesure, à lui mettre dans la tête la donnée d'avant, à savoir qu'il est efféminé. Vous voyez, nous pouvons soit fixer les données, soit les défixer. Il a cette vague idée que certaines de ses actions sont efféminées. Nous l'apprenons, et nous ne lui permettons pas de terminer sa communication. Nous la coupons d'une façon ou d'une autre. Nous la faisons un peu dévier dans l'autre sens. Et nous lui demandons avec un regard très inquisiteur si quelqu'un lui a mentionné ce fait dernièrement. Et puis nous prenons l'air très savant et nous disons « Vous êtes sûr que vous ne vous rappelez pas ?» Ça va être un peu occlu, hein ? Il va se demander ce qui se passe. Et nous disons « Eh bien, je vais vous dire comment guérir cette tendance. » L'une des meilleures méthodes que je connaisse pour guérir cette tendance consiste à surmonter toute impulsion à porter des vêtements de femme ou à se servir d'objets féminins. Voici ce que vous allez faire. Vous allez acheter des vêtements et des objets féminins que vous mettrez sur la commode. Comme ça, ils seront bien en vue et vous pourrez très facilement vous rendre compte qu'ils ne vous appartiennent pas et que vous n'avez rien à voir avec ce genre de choses. Et chaque fois que vous les regardez, dites-vous qu'ils ne sont en aucune façon liés à votre personnalité. Autrement dit, si nous nous y prenons de telle ou telle façon, nous aurons peut-être une chance de lui mettre dans la tête qu'il est une femme. Mais en observant la vie, nous pouvons prendre une attitude paresseuse. Le gars se promène dans la rue et il pense qu'il est un homme, et nous lui donnons une tape sur le dos et nous lui disons « Oui, vous êtes un homme ». C'est l'attitude paresseuse. Oui. Il dit « J'ai peur d'être une fille ». Il est inquiet, vous voyez. Et ça nous suffit. Laissez-le vous en parler, et il cesse d'avoir peur d'être une fille. Oui. Très facile, très simple. Eh bien, nous faisons beaucoup mieux que ça. Nous apprenons aux gens comment des choses sont fixées et défixées dans leur esprit. Nous faisons mieux que ça. Puis nous leur montrons ce qu'ils peuvent faire pour fixer et défixer tous ces accords, toutes ces choses et tous ces postulats. Voilà en quoi consiste notre travail. Et nous le faisons très bien. Prenons une organisation, une entreprise commerciale où il y a tant de désordres que même nous la considérerions comme chaotique. Le patron a dans l'idée que ce désordre s'étend probablement à toute l'organisation. Eh bien, nous pourrions remettre de l'ordre dans le personnel et dans les lignes de communication. Nous pourrions examiner la situation. Nous pourrions faire du très bon travail. Rendez-vous compte que si nous n'assouplissions pas les lignes de communication de cette organisation, le désordre persisterait. Nous pourrions y remédier, nous pourrions changer la situation et rendre ce groupe plus supportable. Qu'est-ce que nous entendons par rendre le groupe plus supportable? Eh bien, nous pourrions dire « le groupe travaille mieux ». Ce serait pas mal. Mais « le groupe atteint mieux ses buts » serait une meilleure définition. Si un homme essaye d'être davantage un homme, eh bien nous pouvons l'amener à être davantage un homme simplement en lui faisant atteindre ses buts. Ou bien nous pouvons l'amener à changer de but. Maintenant, une entreprise qui pense être dans la confusion, eh bien nous pourrions lui enseigner qu'elle est dans la confusion la plus totale. Nous pourrions. Nous irions simplement dans tous les coins et recoins pour y dénicher de vieilles choses, et nous attirerions sans cesse l'attention du directeur sur le fait que tel ou tel employé a accumulé tout un tas de choses dans un coin, et qu'il en a oublié d'autres, etc., etc. Et puis dites-lui bien à chaque fois de ne pas exploser et de ne pas se mettre en rogne, parce que le moral de toute l'entreprise dépend entièrement de son humeur. Eh bien, nous aurions créé une sacrée confusion. Je veux dire, l'endroit deviendrait vite invivable. Ce serait la confusion la plus totale. Vous pourriez dire « Maintenant, ne dites pas que je vous l'ai dit. Je ne tiens pas à avoir des ennuis. Ne le dites à personne. mais votre département des stocks garde toute la marchandise qui ne se vend plus et refuse de commander de nouvelles marchandises. Et puis il refuse de délivrer de la marchandise à qui que ce soit dans la boutique. Et il faut prendre ce type avec des pincettes parce qu'il est dans un sale état. Allez-y mollo avec lui. N'allez pas tout gâcher en faisant intrusion brusquement parce qu'on a vraiment besoin de vous autre part pour des affaires beaucoup plus importantes. Voyez ce que vous feriez ici. Ce serait complètement dingue, pas vrai? Donc vous pourriez intensifier une situation donnée ou simplifier une situation donnée. Ou bien, en évaluant correctement les données, vous pourriez rendre à une activité son autodétermination par rapport à une situation donnée. Rien que par le processus de l'éducation, rien qu'en éduquant des gens unis par le lien du mariage, par exemple, en disant « Voici quelques données sur la vie, allez, jetez-vous à l'eau. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, parfait. Si vous ne voulez pas y jeter un coup d'œil, très bien. Les choses semblent être ainsi, jetons un coup d'œil autour de nous pour voir si elles sont vraiment ainsi. » Orientez-les un peu. Fournissez-leur quelques données stables. Restimulez quelques données stables. Et soudain, leur environnement va probablement retrouver un certain ordre et fonctionner beaucoup mieux. Vous appelleriez cela « donner des conseils ». Mais vous pourriez aussi le qualifier d'éducation. Donc, nous occupons un vaste domaine avec la scientologie. Et il semble que non seulement vous amélioriez l'aptitude à apprendre d'une personne, mais que vous augmentiez aussi son pouvoir de choix par rapport à ce qu'elle apprend. Et si vous parvenez à faire cela, elle vivra une vie bien meilleure et bien plus réussie. Merci beaucoup.